On va prier avant, d'accord? Voilà, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette onction de joie qui était là ce matin dans ce culte. Merci Seigneur pour, j'étais encouragé par toutes les paroles des chants vraiment qui vont, je pense, en droite ligne avec la parole que tu as donnée. Merci Seigneur. Seigneur, on veut vraiment grandir avec toi. On veut être ce terrain souple, ce matin, humidifié, prêt à permettre à ce que cette parole, elle pousse, elle porte du fruit pour cette année 2012. Merci Seigneur, je dépose ma faiblesse encore devant toi, parce que je sais que c'est dans la faiblesse que ta puissance peut se manifester. Alors manifeste ta puissance dans ma faiblesse ce matin. Pour la gloire de ton nom. Amen. Ah, j'étais saisi la semaine dernière par une image dans ma maison, dans notre maison, par une nappe sur la table qu'on venait d'acheter avec Annette. On devait changer de nappe. Et donc c'était une nappe remplie de cœur, une nappe rouge remplie de cœur. On voulait absolument du rouge. Annette dit, il faut du rouge, c'est du rouge qui va avec le meuble là qu'on venait de remettre. Et puis là, on est allé, où c'est pas cher du tout, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse. 3,50 € le mètre, c'est rien du tout. Bon. Eh bien, la seule nappe rouge qu'il y avait, c'était celle-là. Bon, alors on l'a pris. Mais on s'est rendu compte après, on a vu, je regardais, j'étais saisi par cette image, tous les cœurs sur cette nappe rouge. Et puis au milieu, pour la déco, une bûche. Une bûche qu'on avait eue le 31 décembre, parce qu'on avait reçu les gens de notre famille. Et d'ailleurs, sur trois fleurs qu'on a eues, il y avait deux bûches sur les trois. Et les cœurs et la bûche. Et les bûches, ça vous dit rien? C'est quand même incroyable. Les cœurs et la bûche. Et le Seigneur parle, quelquefois il insiste par les choses, les circonstances, les petits achats, les petits cadeaux qu'on reçoit. Hein, il nous parle de cette manière. Et là, c'était comme si le Seigneur disait, ben voilà, je veux rappeler le message de Noël. Le message de Noël, c'était pas du hasard, c'était vraiment conduit par le Saint-Esprit, d'avoir construit cette cheminée et d'avoir rappelé ces vérités que je vais rappeler rapidement maintenant, et qui sont en parfaite harmonie avec la vision de l'Église. Que Dieu veut allumer un feu dans notre communauté, que le feu, c'est sa sainte présence, c'est son cœur, plein d'amour. Ah, décidément, les téléphones, ça y va, ouais. Alors, son feu, son cœur, plein d'amour pour sa création. Hein, qu'il a déployé en Jésus, Jean 3,16. C'est un rappel qu'on veut être cette communauté plus près de son feu, plus près de son cœur. Et comme je l'avais dit dans le message de Noël, une bûche loin de la cheminée n'a pas de sens, notre vie loin du cœur de Dieu n'a pas de sens. Et comme il faut plusieurs bûches pour alimenter une cheminée et faire un grand feu, il faut la réunion des cœurs qui recherchent ardemment le Seigneur pour apporter une chaleur dans ce monde. C'est ça notre vision. Nous voulons être une communauté qui soit ainsi un seul cœur pour Dieu et qui soit le cœur de Dieu dans la cité. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris 24 heures de retraite là, et c'est comme si le Seigneur me disait, mais il faudrait que ça soit écrit ça. Alors c'est une intuition que j'ai, que je vous soumets, alors il faudrait que ça soit écrit à côté de la cheminée. Et pas seulement écrit, mais dessiné. Alors les artistes, les dessinateurs, je vois vraiment un cœur au début avec tous les mots qui sont tous les attributs de Dieu, miséricorde, pardon, guérison, voilà. Je vois un grand cœur comme ça. Je vois un deuxième cœur qui montre la largeur du cœur de Dieu et qui ça fait partie de notre vision. Et à l'intérieur de ce cœur, ben, on voit tout ce qui a de l'importance pour Dieu, toutes les nations, Israël, tout le monde qui a sa place, y compris les petits, y compris les enfants. Ça fait partie de notre vision. Elle est là, notre vision initiale, qu'on a travaillé ça il y a plus de 10 ans. La vision plus détaillée que la petite de ces 3 axes. Hein. Dans ce cœur, l'image d'un pauvre, ça fait partie de notre vision aussi, l'accueil des pauvres, des gens blessés, abandonnés. Et je vois aussi un autre cœur avec des figurines qui montrent toute l'attitude qui est celle qui traduit notre recherche de Dieu. À genoux, le jeûne et la prière, debout, les bras levés, la louange, l'adoration, le livre, la Bible, une oreille, être à l'écoute de Dieu, aimer sa parole. Vous voyez, je vois tout ça à l'intérieur du cœur. Puis je vois le dernier cœur, eh bien un grand cœur avec plein de petits cœurs au milieu. Donc c'est tous les cœurs qui sont un seul cœur pour Dieu. Et je vois des rayons, et derrière ces rayons, toutes les maisons, les immeubles ici. Voilà, le cœur de Dieu. Et vous voyez, quand on a ça à côté de la cheminée, pour nous, membres d'église, ça pourrait nous rappeler constamment, et beaucoup mieux, la vision que 3 lignes sur une feuille là. Et pour les gens extérieurs aussi, ça pourrait les aider à rentrer dans cette vision, à comprendre et à saisir. Alors, les artistes, je me tourne vers vous, voilà, je vous soumets cette intuition à côté de cette cheminée. J'ai l'impression que cette cheminée, on doit la garder un bon moment parce que ça illustre notre vision. D'accord ? Alors ça, c'était mon introduction. Alors justement, dans ces 24 heures, en reprenant cette vision initiale de l'Église, elle existe, hein, elle est là, ouais. Plus détaillée, ceux qui ne la connaissent pas pouvaient la réclamer, j'ai vu que justement, je rappelle une discussion que j'ai eue avec quelqu'un dans l'Église qui disait, mais c'est vrai, il est impossible d'être un seul cœur et d'être le cœur de Dieu dans la cité si le premier objectif, on ne l'atteint pas, si on n'est pas plus près du cœur de Dieu. Impossible. Et la vision nous dit que la première étape pour être plus près du cœur de Dieu, première étape pour la croissance de l'Église aussi, c'est écrit en toutes lettres, c'est dedans. C'est le jeûne et la prière en communauté. Le jeûne et la prière. Alors, le Seigneur m'a vraiment poussé à parler de ça ce matin. Ces derniers mois, je sentais que c'était vraiment quelque chose qui était un peu négligé, hein, dans l'Église, peut-être par découragement, c'est vrai qu'il faut y aller, quoi, il faut de la persévérance dans ce domaine. Hein. Quand on veut vraiment jeûner et prier, on a des grands combats. Hein. Et pourtant, c'est la première étape qu'a franchi Jésus aussi dans son ministère. Aussitôt le baptême, il était emmené 40 jours dans le désert où il a jeûné et prié. Hein, si vous prenez, on peut commencer par ça. Hein. Luc, chapitre 4, versets 1 et 2. Voilà, prenez-le, hein, d'accord ? Luc 4.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim.
Jésus, en retournant en Galilée, Luc 4, 1 et 2. Est-ce que quelqu'un veut le lire ? Parce que moi, j'ai ma Bible, je ne sais pas où. Allez, quelqu'un veut le lire ? Luc 4, 1 et 2. Oui. Voilà. Oui. Très bien. Oui. Voilà. Jésus emmené par l'Esprit dans le désert. D'accord ? Et au verset 14, qu'est-ce qu'on lit ? Il s'en retourna en Galilée, pas seulement rempli, dans la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Fortifié en pleine autorité. Alors, chers amis, est-ce qu'on n'est pas appelé à suivre les traces de Jésus ? Autre question, est-ce que on se sent tous pleinement dans notre autorité en tant que chrétien ? Est-ce qu'on est tous rentrés pleinement dans notre autorité ? Est-ce qu'on est tous rentrés pleinement dans la liberté ? Hein, je vois les bouches. Ben non. Hein. Et tous les chants ce matin nous incitaient à dire « Oui, Jésus a tout accompli. » On est un peu comme Lazare, c'est vrai, qui est ressuscité à l'intérieur, mais il y a des pierres peut-être à rouler, il y a des bandelettes à enlever, il y a des choses encore hein, que nous devons faire pour entrer pleinement dans le salut qui nous a été donné. Sommes-nous pleinement affranchis en Jésus ? Affranchis de toute peur, de tout péché, du doute, de la culpabilité, des angoisses, de toutes sortes d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer, qui nous handicapent, qui nous lient et qui nous empêchent de profiter pleinement de la liberté que Christ nous a donnée. Vous savez, on était à notre famille d'église, quelques-uns, l'été dernier, avec Josette, avec Jacques, Christine. On était 5, je crois, oui. Et le pasteur, qui est le pasteur de la sœur de l'église de la sœur de Colette, la Vincent Fernandez, a prophétisé sur notre église. Et il a dit, je vois que vous allez rentrer dans une nouvelle autorité. Et le Seigneur m'a montré que le jeûne et la prière, c'est le chemin, c'est un chemin en tout cas, pour nous permettre d'entrer dans notre nouvelle autorité. Comme Jésus, il n'a pas commencé son ministère. Il n'a pas commencé ses guérisons, ses miracles, avant ses 40 jours dans le désert, où il a été tenté. Prenez un ou deux jours de jeûne, vous allez être tenté. Hein, vous allez voir, il y aura toutes sortes de tentations. Hein. Mais quand on sort de l'épreuve, on est plus fort. On est plus fort. Quand on sort de ce test, on est plus fort aussi. Et je ressens vraiment en tant qu'Église, qu'on a à prendre ce chemin du jeûne et de la prière pour rentrer pleinement dans notre autorité. Vous êtes d'accord ? Levez la main ceux qui pensent, c'est pas du tout une... Ceux qui pensent que oui, c'est juste. Ben, maintenant, s'il n'y a qu'une main levée, tant pis. Hein, mais bon, vous voyez, ça m'encourage à savoir qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent et qui pensent que c'est juste. Oui, c'est juste. Alors, qu'est-ce que le jeûne ? C'est quoi ? Qui accompagne la prière, hein ? C'est l'abstinence de tout aliment, rarement, très rarement, la boisson avec. Donc là, il faut être clair, un jeûne sans aliment et sans eau, c'est très rare, et ça ne doit pas excéder 3 jours. C'est le jeûne d'Esther. Et là, il y avait une situation extrêmement critique où tout le peuple juif dans l'histoire, dans le livre d'Esther, allait être massacré. Donc là, Esther a recommandé un jeûne de 3 jours sans aliments, sans eau. Il peut y avoir des situations comme ça où, voilà, ça c'est le jeûne d'Esther, hein, l'abstinence de tout aliment. Mais, généralement, c'est le jeûne d'aliments solides et on boit. On boit de l'eau, on peut boire des jus de fruits. Moi, c'est le jeûne auquel, voilà, je bois des jus de fruits, je bois même généralement une soupe très légère. Hein. Bon, il y a différentes sortes de jeûnes. Il peut y avoir le jeûne partiel, par exemple le jeûne de Daniel. Et Daniel, qu'est-ce qu'il mangeait ? Des légumes et de l'eau. Pendant 3 ans pour montrer que il a montré la puissance de Dieu et montré qu'en s'abstinant des viandes sacrifiées aux idoles, ils pouvaient avoir aussi bonne figure. Et ils avaient bonne figure au bout de 3 ans. Donc, légumes et de l'eau. Voilà, il a fait ça aussi une autre fois, pendant 3 semaines. On peut jeûner en mangeant mais des aliments simples. Crudités, légumes, cuits à l'eau, pâtes, œufs, fromages, laitages, fruits, et supprimer tout ce qu'on peut identifier comme superflu. Apéritif, charcuterie, vin, sucrerie, pâtisserie. D'accord ? On peut aussi réduire, voire supprimer les excitants, café, thé. Hein ? Mais on ne jeûne pas de nourriture seulement. On peut jeûner de la télévision, d'Internet, de la radio. Moi, en ce moment, je jeûne de la radio parce que tous les matins, je mettais systématiquement ma radio, les infos. Le Seigneur a dit non, stop, allez, stop. T'as besoin d'entendre ma voix avant d'entendre la voix des infos. Tu peux le soir à 8h écouter, ça suffit. Hein. T'as pas besoin de mettre tout au long de la journée ta radio. Voilà. TV, Internet, radio, vous voyez, il y a peut-être autre chose. Le sport peut-être peut devenir aussi quelque chose... une addiction. Hein. On peut jeûner aussi après, Ésaïe 58, ça, jeûner de critiques, de menaces, de manipulations, de jugements. Voyez ? Et là, c'est tout le programme d'Ésaïe 58 qu'on va peut-être voir dans les groupes de maison ensemble. Comment peut-on résumer le jeûne ? Le jeûne doit être un jeûne de consécration. Vous vous souvenez, le thème de mon dernier message, mise à part. Consécration. Par le jeûne, nous voulons nous consacrer à Dieu. Parce que Dieu cherche ardemment notre cœur pour le consacrer à faire connaître son nom. On a vu lors du dernier message que j'ai donné, des vies mises à part, consacrées, font la différence dans nos familles, dans une assemblée, dans une ville, dans une nation. Des vies consacrées sont lumière dans le monde. Lumière dans le monde. Et font germer le salut et la louange. Alors quelqu'un écrit ceci. La consécration est d'abord une décision, puis un parcours et une éducation, et enfin une attitude et un mode de vie. Et le jeûne opère utilement dans ce processus, supportant et amplifiant la prière, la vie de prière. Et donc pratiquer le jeûne nous aide constamment à nous centrer sur les bonnes priorités, constamment. La priorité n'est pas le manger, d'accord ? La priorité n'est pas le manger. On se dit ça et on veut le dire à Dieu, ben oui, oui Seigneur, c'est toi qui es mon tout, hein. Alors bien sûr, comme on dégage du temps dans le jeûne, le temps du repas, etc., ça crée des vides et il faut penser à combler les vides. Comment on peut combler les vides dans un temps de jeûne ? Ben on peut, au lieu de prendre le repas, d'aller faire une promenade de prière. Quand on peut, bien sûr. Bien sûr. Mais aussi, on peut faire une légère promenade dans sa maison, dans sa chambre. Voilà, chez soi, à l'intérieur, et faire comme Odette fait souvent aussi, de méditer la parole, d'aller prendre le temps de méditer la parole. Promenade de prière, méditation de la parole, étude de la parole. Il faut combler les vides, attention, parce que sinon après il y a l'ennui, et puis de nouveau l'oisiveté, et après boum, alors là, Satan vient. Hein. Ok ? Bon, je peux pas tout dire en une demi-heure sur le jeûne, mais j'ai essayé de résumer là un tout petit peu. Mais retenez le jeûne, démarche de consécration à Dieu. Pourquoi jeûner ? Pourquoi ? Je vais citer quelques raisons de jeûner, mais avant, je vais citer quelques mauvaises motivations. On ne doit pas jeûner parce que quelqu'un vous pousse à le faire. Alors, vous allez dire, bah tiens Jean-Luc, tu nous pousses à le faire, donc on ne va pas jeûner. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous ne devez pas jeûner uniquement parce que je vous dis c'est bien. Mais ça doit être une conviction. Vous comprenez ? Ça doit être une conviction personnelle. Vous devez le faire par conviction. Parce que vous voyez dans la parole, c'est le chemin, c'est le chemin de Jésus, c'est le chemin de pratiquement tous les personnages bibliques. C'est ancré dans l'histoire de l'Église, de toute l'Église. D'accord ? Donc ne jeûnez pas parce que seulement quelqu'un ou moi-même, je vous pousse à le faire, jeûnez pour montrer ma force spirituelle. Je jeûne, vous savez. Ouais, non, ça aussi, c'est mauvaise motivation. Est-ce que ça veut dire qu'on jeûne pour se faire remarquer ? On n'a pas besoin de le crier sur les toits. D'accord ? Sinon, c'est une mauvaise motivation. Non, hein ? Je crois que il y a cette parole, hein, Jésus dit, quand tu jeûnes, enferme-toi dans ta chambre, ou je sais pas quoi, enfin, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, quelque chose comme ça. Hein, d'accord ? On ne jeûne pas pour nous auto-punir hein, à cause de nos péchés. Là, ça veut dire que ben Jésus a payé pour rien, quoi. D'accord ? On ne jeûne pas pour nous auto-punir. Jésus a payé, déjà. On ne jeûne pas pour faire comme une pression sur Dieu. Voilà. Parce que je jeûne, tu dois répondre à ma prière. D'accord ? Non plus. D'accord ? Dieu est Dieu. Hein ? Dieu est souverain. Donc on n'a pas à faire du chantage avec Dieu. Voilà. Ça, c'est quatre raisons mauvaises. Maintenant, je vais essayer de vous donner les bonnes raisons, hein, quelques bonnes raisons de jeûner. Je me retrouve dans mes pages. Voilà, ça y est. Un, d'abord, nous jeûnons pour obéir à la parole de Dieu, tout simplement. Si vous lisez Joël 2.12, ça vaut la peine de le prendre. Joël 2.12. Joël 2.12. Est-ce que quelqu'un veut le lire ? Comme ça m'évite, moi, ici, je suis un peu... J'ai plein de choses, là. Ouais. Si quelqu'un veut le lire, Joël 2.12. Et quelqu'un d'autre prépare 2 Corinthiens 6, 4 à 6. D'accord ? Quelqu'un d'autre, s'il veut bien, préparer 2 Corinthiens 6, 4 à 6. Alors, Joël 2.12, d'abord.
Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.
Jeûner, pleurer, voilà. Revenir à Dieu par le jeûne, la prière, d'accord ? 2 Corinthiens 6, 4, 6.
Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère.
Voilà. Là, c'est traduit privé de nourriture, mais dans d'autres versions, c'est les jeûnes. Hein, nous avons prouvé en quelque sorte notre apostolat ou notre sincérité dans les jeûnes. D'accord ? Voilà. Nous jeûnons pour obéir à la parole de Dieu. Encore une fois, le jeûne, on le retrouve dans toute l'histoire de l'Église chrétienne, dans la vie des principaux personnages bibliques. On le voit, Daniel, hein, et tant d'autres. Un, nous jeûnons pour obéir à la parole de Dieu. Deux, nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu. Exprimer notre repentance et obtenir sa grâce. Alors on a Néhémie, chapitre 9, vous connaissez les deux premiers versets. Néhémie, bon, on n'est peut-être pas obligé de le prendre là, mais on sait très bien que Néhémie a jeûné plusieurs fois et il a invité ensuite le peuple. Il a d'abord jeûné en arrivant à Jérusalem avant de constater tous les dégâts là, puis il a invité tout le peuple à jeûner ensuite. Jacques, chapitre 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Peut-être quelqu'un veut le lire. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Alors, il n'est pas parlé directement du jeûne, mais c'est comme un non-dit dedans, là. Hein, c'est comme un non-dit. Inclus dans cette notion d'humiliation. Nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu. 3. Nous jeûnons pour être purifiés du péché, entre parenthèses, et aussi pour aider les autres à être purifiés. Est-ce qu'on n'a pas, en chacun de nous, peut-être certains péchés qui refont surface, certaines choses, certains nœuds dont on n'arrive pas à se dénouer. D'accord ? Mais le Seigneur veut qu'on aille dans les jeûnes plus loin que nos besoins personnels aussi, et qu'on puisse s'identifier au fardeau supporté par d'autres aussi. C'est ainsi qu'on a un Daniel, par exemple, qui dans son jeûne dit « Nous avons péché ». Il s'identifie à la nation. C'est souvent très mal compris. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. On a beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. Ils disent « Mais comment on a, nous, nous identifier au péché des autres ?» Eh bien, écoutez, c'est dans la Bible. Hein, Daniel, il a dit « Nous avons péché », alors que lui, il était juste. Pourquoi ? On peut dire plusieurs interprétations à ça. Moi, je crois que on a conscience certainement que le péché des autres, il y a des racines en nous. Et il ne faut pas grand-chose pour que ça germe en nous. Il y a aussi le fait que, quelquefois, même si on n'est pas directement touché par le péché de ma nation, quelquefois, ma nation est en train de s'effondrer et moi je ne fais rien. Et moi je suis paresseux dans la prière. Je suis paresseux dans l'intercession. Je laisse ma nation s'effondrer. Je laisse ma ville s'effondrer. On est un peu comme ça, quelquefois. Et on peut comprendre qu'on peut être amené à prier aussi. Nous avons péché. S'identifier. D'accord ? Donc nous jeûnons pour être purifiés nous-mêmes, mais pour aider d'autres à être purifiés aussi. Je crois qu'il y a bien des changements qui ont lieu dans des nations. Alors, je pense à l'Ouganda, avec John Mulindé, cette nation qui a changé totalement, grâce au jeûne et à la prière de tout un peuple. Donc nous jeûnons pour être purifiés et aider les autres à être purifiés. 4. Nous jeûnons pour devenir faibles devant Dieu afin qu'il déploie sa force en nous. Et c'est vrai que dans le jeûne, on se sent faible. Oh là là, ça tiraille. Si vous jeûnez par exemple 2 ou 3 jours, les 2 premiers jours, ça... Puis les odeurs, etc. C'est vraiment les odeurs de cuisine, si jamais. Ouais. D'accord. Donc c'est dur, quoi. Hein, c'est clair. Hein. Mais Dieu a dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Une 5e raison. Nous jeûnons, comme on l'a vu, on l'a évoqué avec Esther, dans des moments critiques pour obtenir son soutien en vue d'accomplir sa volonté. Alors il y a Esther, évidemment, si on a qui note des références, Esther 4, versets 15 et 16, avant sa rencontre avec le roi, elle risquait sa vie en allant rencontrer le roi, donc c'était vraiment une question de vie ou de mort là, d'accord ? On a Esdras, au moment du retour du peuple à Jérusalem, mais aussi pour la protection d'un convoi où il devait convoyer des objets de valeur jusqu'à Jérusalem. Il ne voulait pas donner l'impression au roi que Dieu était un petit Dieu. Et donc, il ne voulait pas demander toute une protection, toute une armée. Il dit non, je crois que Dieu va protéger. Mais il a engagé plein de gens à jeûner pour la protection. Et le voyage a pu se faire. Voilà. Donc nous jeûnons, vous comprenez, dans des circonstances particulières, des moments critiques, pour obtenir son soutien. Autre raison, nous pouvons jeûner pour écarter le jugement de Dieu. Et on a l'exemple de Ninive. D'accord ? Jonas qui va prêcher à Ninive. Ninive va être détruite. Et tous les habitants, le roi de Ninive décrète un décret. Tout le monde doit jeûner, même les animaux. Ouais. Et le jugement de Dieu a été écarté. Vous savez, bon, quelquefois, il peut y avoir le jugement de Dieu sur nos nations. une nation qui promulgue le droit que les homosexuels se marient, etc. Il y a des choses qui peuvent attirer le jugement de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas, nous, chrétiens, à jeûner et prier aussi pour écarter le jugement de Dieu sur notre nation? Nous jeûnons, c'est un point très important, là bien sûr c'est peut-être le plus général, pour chercher la direction de Dieu, pour avoir du discernement et des révélations. Vous savez, l'Église a démarré, a explosé quand? Quand est-ce que vraiment la mission s'a pris la grande envergure? À quel moment? Quelqu'un a une idée? Dans les Actes des apôtres. À quel moment vraiment l'évangélisation a pris un nouvel élan et vraiment l'élan missionnaire a démarré? À Antioche, acte 13. Et si vous lisez acte 13, il est marqué que l'Église jeûnait et priait. Et pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Et c'est un jeûne et prière qui a donné l'élan missionnaire. Moi, si je prends mon cahier où je note des interventions de Dieu, je peux dire que des grandes révélations que j'ai reçues, ne serait-ce que l'appel pour Wavrin, c'était dans un temps de jeûne et prière. Et dans des temps de jeûne et prière, vraiment, j'ai davantage de révélations. Quand les premiers temps, il y avait les 40 jours de jeûne et prière, qu'est-ce que je recevais comme révélation dans ces moments-là? Je dis ça pour vous stimuler, vous encourager à rentrer, à ce que ça devienne une habitude dans votre vie. Je crois que, au moins que, par exemple, nos jeûnes et prières soient pas que le nom, mais vraiment qu'on joigne le jeûne à la prière, la foi. Et donc, on jeûne au moins 2 jours par mois. 2 à 4 jours par mois. Certains peuvent le faire une fois par semaine. Après, il y en a qui vont beaucoup plus loin. J'ai ici un livre que je recommande. Bon, là, c'est un appel très particulier, mais celui qui a écrit ce livre, et je vous l'encourage à le lire, « La puissance cachée de la prière et du jeûne », c'est quelqu'un qui, par Dieu, a fait plusieurs fois 40 jours. Mais vous verrez les choses inouïes qu'il y a dans ce livre. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Il raconte notamment, cet homme s'appelle Mahesh Chavda. Bon, il n'est pas très connu, hein. Mais il raconte notamment que dans un jeûne et prière, donc, il a demandé à prier pour la guérison des gens. Et il y a une femme, une vieille dame qui s'est avancée, aveugle de naissance. Alors lui, il disait, j'aurais préféré quelqu'un d'autre quand même qui s'avance. J'aurais préféré une aveugle de naissance. Et donc, il raconte que, mais il était dans le jeûne et la prière, il a prié, et l'Esprit de Dieu était puissant, était présent, et cette femme est tombée par terre. Lui, il s'est dit, c'est bon. Certainement, elle se relève, mais elle a dit, mais non, je ne vois toujours rien. Deuxième jour, il continue, il était toujours dans une période de jeûne et prière, il continue à prier pour cette femme, elle tombe par terre encore violemment. Elle se relève, vous voyez, madame? Non, non, je ne vois toujours rien. Le troisième jour, cette dame s'avance encore avec persévérance, parce qu'il lui avait dit « revenez le lendemain hein, ». Bon, et puis, elle tombe encore par terre. Vous voyez? Non, toujours pas. Pom, pom. Le septième jour, comme ça, le septième jour, où là, lui, il n'y croyait plus tellement, il l'a vu tomber par terre, dit « bon, c'est comme d'habitude, quoi ». Revenez demain. Il s'apprêtait à lui dire revenez demain. Et là, cette femme dit non, je vois. peut-être. Ouais. Et donc, et lui, il n'a pas eu la réponse pour eux, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas délivré cette femme au bout du premier jour ou du deuxième jour? Il a eu réponse plusieurs mois après, dans un autre jeûne et prière, où il y a comme une vidéo qui est passée devant ses yeux, et dans la vidéo, il voyait une pieuvre avec 7 tentacules qui masquaient cette femme. Et qui, 7 tentacules. Et le premier jour, c'était une tentacule qui s'enlevait. Le deuxième, une deuxième. Le troisième, une troisième. Jusqu'à 7. Voilà. Vous voyez, je crois qu'on a besoin d'entrer dans le jeûne de la prière pour avoir des révélations. Et pour entrer dans ce chemin de guérison, de délivrance. Hein? Dedans, il y a des récits vraiment magnifiques, notamment, il a travaillé tout jeune. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a commencé à recevoir l'appel pour le jeûne et la prière. Il travaillait avec des enfants très handicapés, profondément handicapés. Il y en avait un que tout le monde rejetait parce qu'il se frappait lui-même, il tombait par terre, il se faisait mal. Et on raconte dans ce livre comment il aimait, cet homme aimait vraiment ce... Comment il est entré, il a jeûné et prié jusqu'à un moment, le Seigneur lui a dit, bon, allez, maintenant, tu ordonnes aux démons de partir. Et une simple parole, et ce garçon était délivré. Alors, ce n'est pas toujours des cas de démoniaques, hein, on est bien d'accord, mais je pense, le jeûne et la prière nous fait rentrer dans ce discernement, et pour pouvoir libérer vraiment l'autorité, la parole qui va délivrer. Et je pense que là, c'est certainement une lacune que nous avons ouvert, nous avons à progresser, nous avons à entrer dans cette dimension-là. Vous n'êtes pas d'accord? On a à rentrer dans cette dimension. Et je crois que le jeûne et la prière, c'est un chemin. Un chemin. Jeûne de consécration. Hein? Alors voilà, j'en arrive à la conclusion où je pensais en conclusion prendre quelque chose de détaillé dans Ésaïe 58, mais comme on va l'étudier, comme on a décidé de l'étudier, je dis non. Je vous donne simplement juste quelques éléments pour vous donner l'eau à la bouche, justement, puisque nous allons en groupe de maison étudier, normalement, je pense, Ésaïe 58, dont le titre dans la Bible, c'est « Le vrai jeûne ». Où on ne parle pas d'aliments, d'abstinence d'aliments, là, on parle de l'attitude qui doit accompagner le vrai jeûne. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner, non. Le jeûne, c'est important, mais l'attitude qui l'accompagne, c'est vraiment important aussi. D'accord? Et pour vous donner l'eau à la bouche, parce que vous pourriez penser peut-être, oh là là, jeûner, prier, c'est austère, c'est... Oh là là, c'est dur, on va baver, on va galérer. Voilà, pour vous encourager, eh bien, 12 bienfaits que nous apporte le vrai jeûne. 12 bienfaits, et qu'on trouve dans Ésaïe 58. 1. La révélation. 2. La guérison et l'équilibre. 3. La justice. 4. La présence de la gloire de Dieu. 5. L'exaucement des prières. 6. La direction continuelle. 7. La satisfaction. 8. Le rafraîchissement. 9. La force. 10. Le travail durable comme un fleuve insatiable. 11. L'élévation des futures générations. 12. Le rétablissement. Rien que ça. Alors ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se mettre à étudier Ésaïe 58, d'entrer dans ce chemin, de suivre les traces de Jésus, puisqu'il nous a précédés à ce niveau. Il nous a précédés. À nous de le suivre et de rentrer pleinement dans notre autorité et dans notre liberté. Amen. Allez, peut-être on peut se lever et prier. Hein, d'accord, ouais. Alléluia, alléluia, oh Seigneur Jésus, oui. Voilà, la consécration, nous avons lu tout à l'heure, c'est d'abord une décision, puis un parcours, puis un mode de vie, puis une attitude, d'accord? Alors est-ce qu'on veut, voilà, rentrer, on veut prendre cette décision avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Je suis faible comme vous et ces dernières années, j'ai pas beaucoup jeûné, je le confesse, pas beaucoup. Mais le Seigneur m'interpelle à nouveau à ce niveau-là. Et je sens que c'est quelque chose d'incontournable pour qu'on rentre dans notre autorité. Voilà. Alors, prenez une décision qui ne soit pas quelque chose d'infranchissable. Hein. Ne prenez pas la décision de jeûner 40 jours, ni même une semaine. Commencez par un jour. Puis peut-être après 2 jours ou 3 jours. Hein. Mais ne serait-ce qu'un jour. Ne serait-ce qu'un jour dans le mois, c'est déjà un début. Voilà, si vous avez un peu plus la foi pour 2 ou 3 jours, allez-y. Ou alors pour un jeûne partiel. Hein. Pour un jeûne partiel. Le jeûne de Daniel, peut-être. Voilà, prenez cette décision. Ce serait bien que nous apprenions à jeûner en communauté aussi, en même temps. Peut-être les jeûnes et prières qui sont dans notre calendrier. Par exemple, vendredi prochain, on a un jeûne et prière. Tiens, pourquoi pas, vendredi prochain, allez. Et le vendredi, c'est un jour important, hein. C'est un jour où beaucoup de chrétiens prient, les musulmans prient, les juifs prient. Donc il y a des dans les cieux là ça bouge, hein, oulala. Mais on peut prendre cette décision, commencer à jeûner vendredi, dans cet espoir de la guérison, dans cet espoir d'entrer dans cette liberté, dans cet espoir vraiment d'entrer dans notre autorité, d'avoir des nœuds qui sont en nous qui soient enfin dénoués après des années. Ouais, voilà. Seigneur, bénis la décision que chacun prend maintenant. Voilà. Encourage, celle, fortifie. Fortifie-nous dans notre décision collective d'avancer dans ce chemin que tu as pris, Seigneur. Fortifie-nous. Fortifie-nous dans cette étude sur le vrai jeûne. Éclaire-nous. Donne-nous vraiment de digérer toutes ces paroles et d'éclairer notre esprit. Voilà, merci Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Merci pour les révélations que tu vas nous donner. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen.